Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission de la vie au quotidien, au Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Nous allons parler aujourd'hui de la tricherie lors des examens. Comment décourager cette pratique? Polydor Tangeli, psychologue, est notre invité aujourd'hui. Monsieur Polydor, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission. Le thème vous intéresse, la tricherie lors des examens ou lors de la session. Actuellement, je pense que dans la plupart des universités, les étudiants ont déjà démarré la session et d'autres s'y préparent. Alors comment décourager cette pratique appelée tricherie? On en parle aujourd'hui dans cette émission. Appelez déjà au 081 82 82 827 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Debs Vita assure la mise en onde. Naomi Moutokier coordonne et réalise cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien. La tricherie est une habitude fréquente lors des examens. Motivée par le désir d'obtenir des bonnes notes, certains étudiants recourent à des méthodes sophistiquées pour réussir. Copie des réponses chez autrui, plagiat, utilisation des notes cachées, les antisèches que certains appellent doc ou documents, l'usage de l'internet, recours aux mercenaires, etc. Donc il y a plusieurs tactiques pour tricher. Alors les surveillants des examens sont eux-mêmes parfois placés sous haute surveillance par certains étudiants. Ils s'organisent pour les distraire afin d'opérer en toute sérénité. Alors, quelles sont les conséquences de la tricherie? Comment combattre cette pratique lors des examens? Et si quelqu'un est déjà habitué à tricher, qu'est-ce qui va arriver plus tard? Est-ce que c'est une habitude qui va s'installer tout au long de sa vie ou pas? Eh bien, toutes ces questions, nous les abordons avec notre invité, Polydor Tangeli, qui est psychologue et coordonnateur du groupe Monsala. Bien, Polydor Tangeli, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission.
Merci, c'est toujours un plaisir pour nous de venir servir les auditeurs de la radio Okapi à travers cette radio qui a fait le nom en République démocratique du Congo.
La tricherie, pourquoi toujours cette tendance à tricher lors des examens?
Bon, la tricherie semble être un phénomène évident dans la vie au quotidien. De par la nature des êtres humains. L'être humain a toujours tendance à vouloir faire mieux. Et à ce titre-là, ça peut expliquer qu'il cherche l'excellence ailleurs. Et là, il triche. Alors, la tricherie a un sens péjoratif par rapport à l'imitation. au plan psychologique, puisque nous tous, nous sommes le reflet d'une imitation, le résultat d'une imitation.
Oui.
Vous êtes le résultat de l'imitation de ce que faisaient vos parents, vos frères et même vos collègues, un modèle que vous avez imité.
Tout à fait.
Mais ici, il s'agit d'une imitation négative. Vous imitez, vous copiez ce qui est interdit de copier. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui pousse l'individu à copier ce qui lui est interdit de copier ?
Oui.
Voilà comment
l'être humain a toujours cette tendance
d'aller vers autrui.
Oui, oui, et à briser les règles.
Oui, oui, à briser. Il s'est construit grâce à autrui, mais à un moment donné, on lui dit non, ne copie pas ça.
Oui.
Et lui va au-delà de ce qui est interdit.
Mm.
Qu'est-ce qui est à la base de ça ? Il y a d'abord le manque de confiance en soi.
Ok.
Je me rappelle, nous avons été tous étudiants.
Là,
vous avez fait les books. Vous avez tellement étudié que vous êtes sûr de vous-même.
Tout à fait.
Arrivé à l'auditoire, perdu. Vous avez perdu l'équilibre. L'enseignant qui est très méchant.
Il vous pose des questions.
Dès que vous avez perdu, vous ne vous retrouvez pas. Dès que vous avez... Au lieu de vous concentrer... Vous perdez la confiance, l'enseignant qui arrive, sa façon de poser des questions, peut-être ce sont des questions pièges, vous perdez le nord, le manque de confiance,
en soi.
Oui, ça fait que vous dites, bon, ah, mais est-ce que je ne peux pas chercher ailleurs?
Oui.
Je
ne
peux pas trouver du réconfort auprès des autres.
Les autres, oui.
Et ça vous pousse à la tricherie au plan psychologique.
Mm.
Mais au-delà de ça, il y a aussi une sous-estimation de soi. Beaucoup d'amis, beaucoup d'anciens élèves vont me donner raison si j'ai dit qu'une fois ils ont eu à tricher les mauvaises réponses.
Ah.
Et au sortir, lorsqu'ils comparent ce que lui avait comme première réponse.
C'était des bonnes réponses.
Et ce qu'il a
recopié ailleurs.
Finalement, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui.
Peut-être qu'il se sous-estime, il pense que l'autre
est plus intelligent que lui
et qu'il ne peut donner qu'une bonne réponse.
Oui.
Et il se sous-estime inutilement. Et c'est cette sous-estimation de soi qui vous pousse à aller tricher. Et la liste est vraiment longue, mais je vais retenir aussi la peur de l'échec.
La peur de l'échec.
Oui, on nous a matraqué psychologiquement en disant que nous n'avons pas droit à l'échec. Non, les paradigmes éducationnels doivent changer.
Mmh.
L'échec est une opportunité éducative qui est offerte à l'enfant, à l'étudiant. Pour qu'il puisse se rendre compte de ses insuffisances dans l'apprentissage et qu'il puisse déclencher les mécanismes de correction de ce qui a expliqué l'échec.
Donc il y a des gens dans la vie qui n'acceptent pas l'échec.
Non, ils n'acceptent pas l'échec. Et dès qu'ils sentent qu'ils n'ont pas encore la réponse immédiatement, au lieu de se concentrer, ils s'agitent, ils se voient déjà... perdre l'année et voir les amis déjà être en cinquième, en sixième.
Les frais, tout ça.
Les frais, il dit non, en tout cas ici, toutes les armes sont permises. Et les voilà, quelqu'un qui est issu d'une bonne éducation, fils de passeur de surcroît, servant de messe, on l'attrape comme tricheur. On l'attrape comme tricheur.
Oui.
C'est juste la peur de l'échec. Il voit tout ce que les parents vont lui dire à la maison,
On a payé beaucoup d'argent.
Oui. Allez, voilà. Mais il y a aussi d'autres problèmes, d'autres facteurs qui sont d'ordre, je peux dire quasi psychologique, mais je les qualifie d'ordre éthique. Hein.
Mm.
La démesure.
Ah, la démesure.
La démesure.
C'est quoi la démesure?
On a vu des gens qui ont des ambitions démesurées. C'est-à-dire... Il veut coûte que coûte faire 80%. Non.
Il veut distinguer.
Oui, il veut distinguer. Pourquoi? Vous n'êtes pas tenu à être excellent.
Mm.
Alors, on va l'attraper tricheur à la dernière question, alors qu'il avait déjà bien répondu.
Bien répondu.
Quatre questions.
Oui.
Si ça ne marche pas, soyez conscient de vos limites. Quand vous êtes conscient de vos limites... ça va vous permettre d'avoir une approche d'accommodation où vous faites les choses à la hauteur de vos limites.
De vos limites.
Oui.
Voilà, Polydor, on va accueillir les auditeurs qui sont déjà intéressés.
Voilà, je voulais évoluer.
Thomas Ougeni nous appelle de Kisangani et Blaise Saïdi. Non, tous les deux, Thomas et Blaise, sont tous à Kisangani. On commence avec vous, Thomas Ougeni. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jourdi. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Bonjour Thomas.
Les auditeurs de la radio.
Quelle est votre question par rapport à la tricherie?
Merci beaucoup, monsieur. Je vous dis de la parole. En tout cas, le phénomène tricherie, c'est vraiment récurrent. Récurrent dans des écoles, surtout même dans des universités, où on voit en tout cas ce phénomène-là, ça part vraiment record. Vous voyez quelqu'un, il est en train de monter les classes ou les auditoires, hein? On ne sent pas là, il ne mérite pas ça, la méritocratie là, ça ne tient pas. C'est pas là pour tricher et qu'on sort là. Les résultats ne reflètent pas en tout cas son niveau. Parce que vous voyez, quelqu'un qui peut être à l'université, mais lorsque vous vous échangez même avec lui, vous sentez que ça ne va pas. Même s'exprimer en français, c'est sérieux, on ne sait pas si réellement les résultats qu'il obtient là aux écoles, est-ce que ça reflète réellement ce qu'il a obtenu? C'est un sérieux problème. Mais ici, par exemple, à Inikis, ici, à l'université, pour pallier à ça, l'académie, c'est-à-dire le secrétaire général académique, avait carrément interdit l'accès des téléphones dans les salles des examens. Parce qu'actuellement, avec l'ère là du numérique, là, il suffit seulement à un étudiant qu'il puisse entrer avec les téléphones dans une salle d'examen. Vous voyez, il fait tout. On peut tricher avec ça, c'est-à-dire avec l'intelligence des ChatGPT, entre guillemets, là. Les enfants ou les élèves ou les étudiants n'ont pas ce temps-là de lire, mais ils se confient là à tricher grâce à cette, avec l'intelligence. Et c'est un sérieux problème. Parce que, on doit combattre en tout cas cette tricherie-là. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des mécanismes qui doivent être mis en place dans des universités, dans des écoles, pour contourner, pour pallier cet aspect des choses. Parce qu'on peut tricher, mais lorsqu'on n'a pas quelque chose dans la tête, c'est un sérieux problème. Mais je ne sais pas par rapport à l'éviter. Quelles sont en tout cas les techniques que les autorités doivent faire pour pallier effectivement avec ça? Parce que même si on a interdit, même ici à Kisangana, on a interdit que le téléphone puisse entrer dans des salles des examens, mais on voit que les téléphones sont toujours dans les auditoires.
D'accord.
On a interdit ça, mais lorsqu'il y a l'examen, voilà. Vous voyez, les téléphones sont bel et bien dans les auditoires. On ne sait pas si c'est la complicité avec
les surveillants
ou quoi. D'accord. Parce que lorsqu'on a interdit quelque chose, mais le téléphone circule toujours. Parce que vous voyez, on va attraper quelqu'un avec le téléphone dans les auditoires.
Merci beaucoup.
Bel et bien interdit.
Oui. Et on a noté que c'est interdit.
Deuxième mécanisme, il y avait également, on voulait assez que pendant les examens, je ne sais pas si ça peut être possible, s'il y a moyen de couper les réseaux aux environs de l'université. Par exemple, l'examen ici, c'est à partir de 12h à 15h.
Couper l'internet, c'est
il y avait des, on parlait ça sur des réseaux, c'était pas officiel, mais les gens disaient que non. Pour pallier également à ça, carrément couper la connexion sur l'intervalle là.
D'accord.
De l'université, entre 12h à 15h pour permettre aux gens. Même si vous avez le téléphone, mais vous n'avez pas la connexion, ça sera impossible que vous puissiez tricher. Même si, parce qu'on a interdit le téléphone, mais le téléphone, c'est qu'il
carrément couper la connexion. Merci.
Je ne sais pas si
Thomas, nos maisons
de télécommunication peuvent d'accord également passer à ça.
D'accord, merci. Blaise Saïdi, vous êtes aussi à Kisangani, bonjour.
Bonjour, cher jeudi, bonjour à l'invité, ainsi qu'auditrice, auditeur de la radio Capi, Okapi, particulièrement aussi Thomas qui m'a précédé. Cher jeudi, la tricherie lors des examens constitue un fléau qui compromet la qualité de l'éducation, affaiblit les compétences des apprenants ou des étudiants et installe une culture de corruption dans la société. Ces conséquences sont graves tant sur le plan individuel que collectif. Pour l'éradiquer, il faut combiner la sensibilisation rigoureuse des règles et la promotion de l'intégrité académique de la jeune âge. Ce n'est que qu'en valorisant le mérite et le travail honnête que l'on peut garantir une éducation de qualité et former des citoyens responsables. Cher Jody, cette situation, c'est un phénomène qui est devenu comme valeur. C'est-à-dire, lorsqu'on ne triche pas, on ne doit pas se retrouver. Aujourd'hui, vous allez comprendre bien que non, même dans les centres des examens d'État, il y a toujours les candidats qui entrent avec le téléphone. il y a toujours les candidats qui
sont avec les. Alors, rapidement, est-ce que vous avez une question?
La responsabilité.
Rapidement, les autres attendent. Est-ce qu'il y a une question?
Oui. Donc, ici, d'abord, c'est un problème de prise de conscience. Voici quelques questions, chers auditeurs. La première question, puisque avant de donner les questions, il y a d'abord le législateur a tout prévu. Même dans des écoles, il y a le règlement intérieur. Mais les enseignants, parfois, ne veulent pas respecter le règlement intérieur. Donc, il y a aussi les instructions officielles. Il y a même vademecum. Mais pourquoi on ne peut pas respecter ça? C'est ce qui nous amène déjà dans cette difficulté, cher Jésus. Voici la première question. Quelle est la responsabilité des autorités éducatives dans la lutte contre la tricherie? Ça, c'est la première question. La seconde question. Quelles sanctions seraient efficaces pour réduire la tricherie sans être trop sévères? La troisième question, quels moyens concrets les établissements peuvent-ils en place pour limiter la tricherie et pour chuter pourquoi la tricherie est-elle devenue une pratique courante dans les milieux scolaires et universitaires? Je vous remercie, cher Jésus.
Bien, merci. Nous parlons de la tricherie lors des examens. Platini Mbombo de Mbandaka, bonjour. Platini Mbombo, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, je salue tout le monde, bonjour.
On vous écoute.
Voilà. Merci, merci beaucoup aujourd'hui pour m'avoir associé à ce débat. J'ai suivi vraiment les internautes, les intervenants, etc. Tout ça. Lutter contre la tricherie a un effet vraiment pour moi. Je ne sais pas comment on peut faire pour arrêter cette hémorragie. Je dis, moi j'ai des témoignages, je suis dans la ville de Mbandaka, comme je vais vous dire. L'examen d'État qui vient de se passer il y a un mois ou deux mois. Moi, j'ai vu comment une fille qui entre au niveau de ça d'examen avec le item déjà très bien rempli. Et comme vous le savez, si moi, à Bombay, là, je ne réserve pas à dire ça. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et quand on a arrêté cette fille, il me dit que non. C'est notre préfet, c'est lui qui nous a fait ça. Et c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui m'a donné pour que j'entre au niveau de ça, de l'examen d'État, et de subir avec nos amis. Et donc c'est compliqué. Alors moi aussi, je ne sais pas trop qui me maîtrise. Je pose la question à M. l'invité. J'ai suivi mon ami de Kisangani, comme il a dit. Et bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, la tricherie, ça devient comme une valeur. Or, c'est la qui valeur. Lutter contre ça, je ne sais pas. D'abord, on commence par au niveau de l'établissement, parce qu'il y a, comme ici à Mbandaka, je peux pas dire les noms de l'établissement, ou même les enseignants, et même ce sont des tricheurs ensemble avec les étudiants. Et l'enseignant lui-même donne l'opportunité à l'étudiant à tricher. Donc, tu fais un bon à les tricher, c'est comme ça. Et tout le monde entre avec le téléphone, tout ça. Alors, est-ce qu'il n'est pas si possible, lors des examens d'État, lors des examens, comme maintenant, là, ça se passe au niveau des différentes universités, qu'on commence d'abord à couper ce qu'on appelle l'Internet? Parce que je dis avec les téléphones, il y a tout, il y a tout. Je te dis, je dis. Mais quand j'oublie Kachama, l'internet qui me dit, c'est je dis Kachama. Donc, tu vois, est-ce que pas besoin de couper, sauf une semaine, et dès que les examens terminent, on relâche, c'est la possibilité. Parce que si ce n'est pas ça, c'est pas dans quel mécanisme qu'on peut lutter contre ça.
Merci voilà. Beaucoup, Platini Mbombo. Merci à tous les intervenants. Polydor Tangeli, quelles sont vos réponses?
Bon, j'étais en train de faire le déroulé de mon exposé. J'étais au niveau de l'éthique. Hein?
Oui.
Il y a la démesure, il y a l'avidité, il y a cette accommodation à la pratique de l'échec qui explique les phénomènes et tricheries en milieu scolaire.
Oui.
Mais peut-être ici, il faut déjà abonder avec le temps sur les solutions au problème de la tricherie. D'abord, la tricherie telle que je vous ai présentée est un problème d'ordre psychologique et éthique, mais qui se réalise par un individu avec la complicité des institutions. Par là, je vois les acteurs institutionnels et du système lui-même. On est en face d'un système qui a accepté la tricherie comme une pratique, un peu comme disait un des
intervenants.
Des intervenants.
Oui.
L'antivaleur qui est devenue
une valeur.
Voilà. Alors, la solution à ces problèmes passe d'abord au plan individuel. Au plan individuel, on doit savoir que toute réussite se prépare. D'où il faut une bonne préparation de l'évaluation. Vous devez bien vous préparer à affronter l'évaluation. Et là, psychologiquement, vous devez éviter de vous sous-estimer. Il faut vous dire, vous êtes capable de réussir, mais aussi de ne pas penser que vous êtes appelé à tout réussir. Puisqu'au fait, ça va aborder la deuxième question. L'évaluation a pour mission, au plan docimologique, de détecter les différences entre les apprenants. Une bonne évaluation doit être capable de détecter le mauvais élève du meilleur élève. Et toutes les questions ne sont pas à la portée de tout le monde. Si du moins, le questionnaire a été bien conçu.
Donc on ne peut pas répondre à toutes les questions.
Non. Et vous voyez, ce sont des questions réservées aux meilleurs élèves, hein, à détecter les meilleurs élèves qui conduisent les gens à la tricherie. Donc au plan individuel, il faut se préparer et la préparation d'une évaluation se fait dans le temps. C'est pas à la veille. Vous devez avoir la maîtrise de la matière et être à l'aise lorsque vous allez déjà affronter le quoi. Mais au plan institutionnel, et là, ce sont nos structures d'éducation qui sont à la fois facilitatrices de la tricherie. De quelle manière? Je suis enseignant, mais moi, j'ai un style docimologique qui fait que tu as du mal même à tricher. Je compose un examen à livre ouvert.
Comme certains disent, à tombeau ouvert.
À tombeau ouvert. Oui, mais je me dis, tu as tout simplement besoin de connaître la procédure, mais la finalité, tu ne peux y arriver que si tu es bon.
Ok.
Voyez.
Et là, ça peut être un examen qui demande une réflexion.
Je donne le cours de statistique, le cours de psychologie projective, ainsi de suite.
Oui.
J'ai quitté même la salle.
Vous les laissez faire. Allez, débrouillez-vous là-bas.
Mais ils disent, monsieur, tu es méchant. Ça veut dire, je leur ai donné la liberté d'action.
Oui.
Mais consultez, j'ai pris des garde-fous.
Voilà.
Des garde-fous pour détecter le meilleur. Et aujourd'hui, les questions qui sont posées aux élèves, ils sont à 700 dans un auditoire. Vous leur posez la question de savoir qu'est-ce qu'est l'histoire. Mais ils vont se recopier, ils vont...
Ça sera la même réponse
partout. Lumumba est devenu premier ministre en quelle année?
En quelle année?
Non, mais vous facilitez l'échec, vous comme évaluateur. Donc, la façon de poser, des questions doit aussi permettre de différencier. Et là, ce sont des questions de compréhension qui limitent l'échec. Des questions de dissertation qui limitent l'échec. Déjà, au plan de l'évaluation, l'enseignant doit prendre des dispositions évaluatives qui permettent à l'enfant de ne pas voir ailleurs. Il va donc regarder ailleurs, sera une perte de temps. Vous voyez, ça sera une perte de temps. Oui, voilà. Ça, c'est une première question. Et puis, il y a les conditions matérielles qui peuvent limiter aussi.
Mais l'évaluation avec, par des questions à choix multiples, qu'est-ce que vous dites par...
Oui, les questions à choix multiples, qui sont bien ficelées. Puisqu'il suffit que je sois de la même série que vous, je recopie aussi. Vous savez, quand nous étions des enfants, il y avait le phénomène fico-fico-fio.
Oui, fico-fico.
Donc, j'ai fait fico-fico-fio. Et puis, je prends.
Et puis, allez, je note quelque chose là.
Voilà. Donc, il y a ça. Et donc, les conditions matérielles. Comment les enfants ne peuvent pas tricher lorsqu'ils sont touffus dans une salle de 30 personnes à
700 étudiants?
Non, ne leur reprochez pas de tricher. C'est le moindre des instincts qu'ils puissent développer lorsqu'ils se retrouvent comme ça.
Ils sont entassés.
Donc, essayez de les séparer. Et il y a d'autres conditions matérielles comme l'accès au téléphone, le réseau, ainsi de suite. Donc, il faut que nos institutions puisse aussi faire de manière à ce que on puisse lutter contre la tricherie à travers les conditions matérielles d'organisation. Mais il y a aussi les conditions psychologiques.
Les téléphones sont-ils autorisés ou pas lors des examens?
Bon, il y a la liberté d'accès à l'information, nous la reconnaissons, mais elle est limitée lorsqu'il s'agit d'une évaluation, puisqu'on veut que vous nous prouviez que vous avez acquis des connaissances. Mais lorsque vous recourez au téléphone, c'est-à-dire vous ne les avez pas encore fait vôtres, ces connaissances-là. Alors, il y a les conditions psychologiques aussi que les institutions doivent mettre en place. Les sanctions. Il faut qu'on sente que quelqu'un a perdu une année scolaire...
Pour avoir triché.
Par exemple, nous, quand on était au petit séminaire, vous trichez, vous rentrez à la maison le jour
Vous êtes renvoyé.
Vous êtes renvoyé. Et c'est, ça terrorise tous ceux qui sont, tous les tricheurs en nombre.
Ils ne vont plus oser.
Qui sont là, qui vont dire, ah non, je risque de rentrer chez mes parents.
Oui.
Mais lorsqu'on est là, les tricheurs se retrouvent dans une liberté, dans une acceptation sociale admise, ça ne marche pas.
Et quelqu'un a parlé de la culture de la tricherie. Quand on est habitué à tricher, en classe, même dans la société, ça va vous poursuivre.
Mais exactement, c'est ce que j'ai dit. Lorsque vous faites, vous prenez l'ensemble des conditions individuelles et institutionnelles et sociétales, ça forme une culture sociétale, une culture d'entreprise. Et vous verrez que les élèves de telle école sont des tricheurs.
Les grands tricheurs.
Les grands tricheurs. Pourquoi ? En commençant par la nature des élèves, la nature des enseignants, la nature, les systèmes éducationnels locaux qui favorisent cet échec-là. Et là, ça devient un fléau qu'il faut combattre. Pourquoi ? Puisque il y a inversion de valeur. Et c'est un changement alors qu'il faut imposer. Et malheureusement, dans des sociétés comme les nôtres où le noir devient blanc, lorsque vous y allez, pour changer les choses, on vous dira « Yonde Kobongisa Boko ». Laisse-nous, Yonde Kobongisa Yango. Et nous descendons crescendo, crescendo, decrescendo, jusque au fond de l'abîme. Et c'est après que nous allons nous plaindre en disant, oh là là, où sommes-nous? Nos parents n'étaient pas comme ça.
On va accueillir Gaston Gandou de Kinshasa, Emina Mwanda de Bukavu, Elias Osamalo et aussi Akin. Nous parlons de la tricherie. Gaston Gandou, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Je pense que vous m'écoutez.
Oui, on vous
d'accord,
écoute.
Bon, nous avons l'habitude de vous suivre sur Internet, mais apparemment, vous n'êtes pas en ligne là-bas. S'il faut revoir cette situation, parce que nous intervenons, vous comprenez. Donc, mais quand même, je comprends la thématique. Je voulais dire ceci, ça vient vraiment du fond de moi. Je ne fais pas l'apologie de la tricherie, mais je pense que celui qui peut tricher et trouver la bonne réponse, ce n'est que la personne intelligente. Hein. Et puis, avec le nombre de cours que nous avons aujourd'hui, surtout à l'université, le nombre de cours que nous avons, nous ne savons pas où la question va venir. Donc, on est obligé de comprendre tous les cours, maîtriser tous les cours, si je peux le dire ainsi. Alors, il y en a combien qu'il faut maîtriser? Un bout de papier quelconque, ou soit quelque chose qui peut vous faciliter à repérer la bonne réponse que vous aviez notée, étant donné que vous aviez bien compris les cours, mais que vous avez noté comme aide de mémoire quelque part, ce n'est pas en soi une tricherie. Hein. Et puis... Vous savez, nos enseignants, hein, aujourd'hui aussi, la correction dépend de la manière dont l'enseignant a voulu que les étudiants puissent répondre. Alors, même si vous répondez, je ne sais pas, vous croyez être bon votre réponse, mais l'enseignant voudrait que vous puissiez reproduire l'explication qu'il avait donnée par rapport à cette notion-là. Et là, moi, je pense, pour vraiment reprendre tout ce qu'il avait dit, si vous l'avez écrit quelque part, c'est pas mauvais de recourir là-bas, hein, et prendre et noter. Et là, je veux même que, pour comprendre qui avait compris le cours, qui avait noté une explication quelque part, parce que noter aussi pendant que l'enseignant enseigne ses données aux intelligents, si on pouvait permettre que tout le monde rentre avec ses notes et repérer la question qu'on a posée, la réponse là où ça se trouve, ce serait pas aussi, par rapport au système qui est le nôtre, ce serait une manière de faciliter les gens à bien réussir. Parce que nous sommes victimes des fois des explications que vous donnez, qui sont peut-être, des réponses que vous donnez qui sont peut-être bonnes, mais qui n'est pas à la hauteur du professeur, parce que vous les dépassez, ils vous cotent mal.
D'accord. Vous dites que le professeur veut que les étudiants reproduisent mot à mot les explications qu'il avait données. Merci Gaston. On va donner la parole à Emina Mwanda de Bukavu. Bonjour.
Bonjour monsieur, je dis bonjour à tout le monde.
Quelle est votre question?
Ma question est de savoir, monsieur Jody, quelles sont les modalités pratiques que les enseignants doivent réunir pour empêcher l'éducation? Moi, je donne l'exemple.
Pour empêcher la tricherie.
D'ici à Bukavu. La tricherie, oui. Ici à Bukavu, il y a des écoles où vous voyez même l'enseignant pose des questions dont lui-même ne sait pas la réponse. Alors, je pense que cette pratique.
Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il pose une question dont il ne connaît pas la réponse.
Là, expose les élèves à la tricherie. Même notre pays, vous voyez même certains dirigeants ont triché. La tricherie actuellement est devenue un mot de vie. Alors, l'invité là nous donne des réponses claires de la manière dont les gens peuvent utiliser pour supprimer, pas empêcher, pour supprimer la tricherie. Parce que si on peut parler des conséquences de tricherie, si nous pouvons même prendre tout le temps qui nous reste à l'aide de l'émission.
Merci beaucoup. D'accord. Merci. Quelles sont les modalités pratiques que les enseignants peuvent prendre pour combattre la tricherie? Elias Osamalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Elias, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour à tous les invités.
Bonjour.
Quelle est votre question par rapport à la tricherie?
Monsieur le journaliste, moi j'ai un témoignage. Je sais que le temps ne nous permettra pas de parler à long et à large. Mais je voulais juste compléter, c'est que le premier intervenant qui vient de prendre la parole dans notre groupe ici. En tout cas, je prends mon cas à l'État ici, on a connu un enseignant qui cherchait rien que ce mot en lui. Donc si vous arrivez à répondre par rapport à ta compréhension, en tout cas rassurez-vous que vous aurez absolument zéro. Il faut répondre exactement selon ce qu'il vous a enseigné, selon ce mot. Des vocabulaires qu'il a utilisé. Alors, ma question est que, au niveau de notre système éducatif, la vocation de
Allô? Oui, il y a un souci avec votre connexion. Vous parlez d'Alissa, il y a des enseignants qui veulent aussi qu'on reproduise mot à mot les explications qu'ils ont données. Dommage, la liaison s'est détériorée. On va accueillir Ismaël Mumpoi de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute Ismaël.
Oui, ma première question, c'est de savoir quel est l'objectif d'un enseignant quand il donne ses cours.
Oui.
L'élève échoue ou réussit. Puis s'agissait d'une réussite. Mais pourquoi un enseignant pouvait poser des questions très compliquées, très difficiles, et pousserait parfois les élèves à vouloir tricher. Je vous...
Allô?
C'est que j'ai commenté sur la page. Nous avons une concentration, une détermination, un avouement vis-à-vis de ce que nous voulons faire. Quand on étudie, nous pouvons mettre en tête, ou les élèves doivent mettre en tête, que ce ne sont pas pour les points, plutôt que pour la connaissance. Quelle est l'importance de cette connaissance? C'est ça, c'est qui nous ferait les hommes instruits dans les jours à venir. Car après avoir triché, est-ce qu'un élève pourrait aller, par exemple, dans un concours, tricher pour avoir accès à un emploi? Et quelle sera la technique la plus simple à utiliser vis-à-vis des élèves et vis-à-vis de ceux qui dispensent les cours pourvu que les élèves ne puissent pas tricher? Je vous donne un exemple. J'enseignais à l'ITEM un cours de stomatologie. Mais les élèves étaient stupéfaits pourvu que chaque élève pourrait se retrouver à donner la réponse à tout ce qu'ils avaient étudié. Ou ils pouvaient réciter ce qu'ils avaient appris comme une récitation. Pourquoi on durait cela ou pourquoi on peut faire cela? C'est pour éviter ce que les élèves font là. Où on ne peut pas donner une matière très compliquée et qui dépasse les niveaux, l'entendement des élèves, pourvu que les élèves commencent à se débrouiller. Moi, je me rappelle, il y a plus presque 25 ans que j'ai effectué mes examens d'État. Mais je peux vous réciter toutes les questions de l'examen oral. Mais mon sujet de dissertation était, l'outil est important, mais l'ouvrier est très important. Mais j'ai débattu mon sujet, mais jusqu'à présent, je garde ça en mémoire. Ce que nous pouvons savoir pour éviter la tricherie, c'est que nous ne pouvons pas donner la matière ou le matière qui dépasse l'entendement des élèves.
Bien,
merci. Les élèves doivent se concentrer, savoir que dans les jours à venir, ce que j'étudie ici, c'est ça ce qui doit me faire un homme. C'est ça quand même à mon niveau. Merci beaucoup.
Merci Ismaël. Voilà, depuis Mompoy, depuis Lubumbashi. Polydor Tangeli.
Merci. Beaucoup de choses à dire, hein, après avoir écouté.
Oui.
D'abord, je veux dire que il n'est pas bon de faire l'apologie, même s'il a dit qu'il ne faisait pas l'apologie de l'échec, de la tricherie.
De la tricherie.
Mais on sent que notre auditeur est en train de faire l'apologie de l'échec.
Gaston qui parle d'aide-mémoire.
Oui, aide-mémoire. J'aurais bien voulu que le médecin, lorsqu'il est dans la salle d'opération, le fasse avec ses syllabus. Fasse une intervention chirurgicale
avec son syllabus à côté.
que l'avocat le fasse
avec
en
son
lisant ses syllabus de procédure
pénale et tout ça,
ouais. Oui. Ainsi de suite. Et que l'enseignant d'algèbre et mathématiques recourt toujours à ses notes lorsqu'il est en train d'enseigner. Mm. On doit sentir que vous avez assimilé. Ouais, le mot assimilé en pédagogie a tout son sens.
Oui.
Vous avez fait votre... C'est que vous n'aviez pas à l'entrée du processus enseignement-apprentissage. C'est-à-dire, vous êtes venu tête vide et on vous a, aujourd'hui, nous sommes capables d'expliquer 1 plus 1 égale 2 sans recourir au livre de première année.
Aux notes.
Et nous sommes capables d'expliquer que voici, c'est puisqu'il y a un ici, on a ajouté. Mm-hmm. Vous devez le dire, ça doit faire partie de votre être. Ça doit vous changer.
Et il a dit pour tricher, il faut être d'abord intelligent.
Mais il faut, oui, il faut être intelligent. Mais ici, on ne vous a pas demandé d'aller faire des recherches. On vous demande de dire ce que vous connaissez. Ce qui est dans votre tête.
Oui.
Ce qui est dans votre tête. Ce n'est pas une opération d'enquête ou de recherche documentaire.
Oui.
Ce qui n'est pas... Et aujourd'hui... Je l'avais déjà dit, il y a certains enseignants qui posent mal des questions. Des questions qui ne sont pas adaptées à la matière. Il emprunte une question d'une autre matière, il ramène dans la matière qui est la sienne. D'où
mais
aussi,
pour quel objectif?
L'exigence de faire des bonnes sélections des enseignants et d'une formation permanente des enseignants en matière d'évaluation. Mm. Puisqu'au fait, il y a aussi des déliquescences de compétences acquises en matière d'évaluation. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, ne peut connaître la bonne réponse que celui qui a lu le cours ou qui connaît la bonne réponse. Mm. Mais c'est une pratique interdite. Pourquoi? Puisque c'est... Ça expose à une nonchalance à l'accès facile. Oui. Mm. À la réussite facile.
Oui.
Donc, la réussite se prépare. Et si vous êtes intelligent, on le sentira par votre préparation. Vous préparez votre évaluation, vous attendez, vous vous concentrez sur ce sur quoi l'enseignant pourra venir. Et je rappelle ici à tous les élèves qui nous écoutent, au plan docimologique, chaque élève n'a pas accès à toutes les questions, n'est pas capable de répondre à toutes les questions. Un questionnaire, un examen qui est bien structuré, qui est bien conçu au plan docimologique, a des questions faciles, des questions accessibles,
oui.
Des questions accessibles à tous et des questions élitistes.
C'est-à-dire?
Alors, des questions qui détectent le meilleur élève.
D'accord.
Et qui va permettre à ce qu'on puisse dénicher le bon élève parmi les élèves. Voilà. Alors, quand on n'a pas des enseignants qui ont cette notion-là, ils évaluent vaille que vaille. Et ça devient un
sérieux. Mais qu'est-ce problème. Que vous pouvez dire aux auditeurs par rapport aux enseignants qui veulent que les élèves ou les étudiants reproduisent mot à mot ce que lui avait enseigné?
Bon, au fait... En matière d'évaluation, il y a des questions qui touchent à la mémoire. Par exemple, un cours d'histoire, c'est une reproduction.
Mm.
Mais un cours de dissertation, par exemple, là, c'est la tête de l'enfant. Prenons le sujet évoqué par notre auditeur.
Mm.
Il parle de l'outil est important et l'utilisateur de l'outil est aussi important. Mais si tu n'as pas un bagage... C'est ta tête qui doit produire. Si tu n'as pas un bagage, tu ne vas pas prendre des dictionnaires et des livres pour d'abord définir. Donc, chaque cours, un cours de mathématiques, on fait appel à votre capacité de mémoire et des opérations mathématiques. Donc, chaque cours a sa nature de questions. Alors, quand un enseignant lui-même n'est pas bien formé à la matière, d'où ici une interpellation pour toutes les universités à organiser des formations permanentes vis-à-vis des enseignants, en faveur des enseignants plutôt, pour qu'ils puissent être des bons évaluateurs.
Bien, il y a un autre auditeur qui vous pose cette question. Quel est l'objectif d'un enseignant quand il évalue les étudiants? Est-ce l'échec ou c'est la réussite?
D'abord, l'enseignant a pour mission de donner de la matière.
Oui.
C'est-à-dire, pas l'accumulation des connaissances, mais faire assez que les enfants puissent assimiler ce qu'ils lui apportent comme connaissances. Alors, donc sa fierté, c'est de voir que ce qu'il a apporté est reçu, réceptionné par les élèves.
Mm.
D'où l'exigence, l'ontologie même de l'évaluation. On évalue pour savoir si ce qu'on vous a donné a été vôtre.
Oui.
Alors, mais celui-là ne peut être fier que de constater que chez ce qu'il a enseigné, il retrouve. Il est aisé lorsque nous corrigeons les feuilles des étudiants de se lire à travers les étudiants.
Ça vous fait plaisir.
Ça vous fait plaisir.
Oui, oui.
Un enfant qui fait l'honneur de son père, pratiquement.
Mmh.
Vous dites, non, c'est moi qui lui ai enseigné,
mmh.
mais il le fait mieux que moi. Puisqu'il a compris ce que moi j'ai apporté. C'est ça la fierté de l'élève.
Mmh.
Je ne pense pas qu'on ait un seul enseignant qui vienne faire la promotion de l'échec. Mais, de l'autre part, l'enseignant a cette mission de détecter les faiblards. Les queues des têtes, les médiocres des élites. Il a aussi cette mission.
Oui.
Puisque nous tous, nous sommes différents les uns des autres. Nous sommes accueillis à la classe d'admission en première année primaire à cause du critère d'âge et d'aptitude physique peut-être,
mmh.
en première année primaire. Mais nous sommes différents. Chacun a des capacités en mathématiques. Des capacités en mathématiques,
l'autre
en français,
oui.
ainsi de suite. C'est le rôle de l'enseignant de les détecter. Voilà pourquoi il y a la guidance, il y a le cycle d'orientation, pour que chacun, le système éducatif détecte les potentialités de tout un chacun.
Mmh.
Donc, on doit mettre l'enfant dans cette boîte noire pour qu'il sorte autrement que tel qu'il était entré. Donc, un système éducatif qui ne fait que reconduire, et nous décrions aujourd'hui, il y a le taux d'échec est vraiment trop faible. Et au finish, on a des incompétents, des personnes qui ne savent pas s'exprimer.
Écrire.
Pourquoi? Puisque on a horreur de l'échec. Non. On a offert de créer des différences. Non. C'est ça la mission de l'éducation. Donc, l'enseignant n'est pas là pour promouvoir l'échec, mais l'enseignant est là pour faire des différences. Je peux échouer, mais je suis fort en français. Je suis fort en technologie.
Oui.
Et ça peut faire de moi un grand mécanicien. Et ça peut faire assez qu'on constate ce que je suis et qu'on m'oriente vers les sciences, comment on les appelle encore ? Les techniques professionnelles, patati patata,
oui, oui.
pour que je sois. Et que ceux qui ont été bons en français, qui ont fait 80%, puisque nous étions en section littéraire, aillent en droit où ils vont exceller, ils seront des magistrats, des avocats, des journalistes, ainsi de suite. C'est ça le rôle de l'éducation. Donc, une université qui a peur de créer cette différence-là n'a pas sa raison d'être. Une école primaire qui ne sait pas différencier les élèves par rapport aux médiocres, aux élites, tant au plan de la moralité qu'au plan intellectuel, joue très mal son rôle. Donc,
mais comment se fait-il aujourd'hui? Bon, on va d'abord accueillir un auditeur et puis je reviens à ma question. Papi Mboyo, vous êtes en Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, M. Jordi. Bonjour à l'invité, ainsi que le directeur de la place.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la tricherie?
Vraiment, le sujet, il est vraiment... Oh, oui, je vais manquer quelque chose, M. Jordi. Le sujet, vraiment, il est très délicat. De sorte que, de voir la tricherie. Aujourd'hui, la tricherie, dans son ensemble, il y a des tricheries un peu par-ci, par-là, partout. Donc, aujourd'hui, vous avez abordé l'aspect de la tricherie aux universités. Mais, le monde est passe à la tricherie. Moi, je ne sais pas, monsieur, aujourd'hui. Est-ce que je dis que tu avais triché aussi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la tricherie, même aux églises, même par-ci, par-là, même partout, il y a la tricherie. Et moi, je pense qu'à mon avis, le problème vient au niveau du gouvernement. Le gouvernement aussi a une part de responsabilité qui est en train d'amplifier ces gens de pécherie. Mais pour ne pas aller trop kilométrique, j'aimerais passer tout droit aux quelques soucis que j'ai à l'invité.
Mmh.
Moi, j'aimerais lui demander, la première question était de savoir, M. Jody, quel invité nous dise pourquoi tout le monde a triché, pourquoi tout le monde triche. Tout le monde est triché. Vous êtes élève, vous trichez, vous devenez étudiant, vous trichez. Quand vous devenez enseignant, maintenant vous commencez à combattre la tricherie. Pourquoi non ça? Et la deuxième question, ça c'est une question de curiosité.
Oui.
Ou de mon curieux peut-être. Que l'invité nous dise, et puis lui aussi, s'il est passé dans le même chemin, que nous confirme. Et la seconde question, monsieur Dodi.
Oui.
Alors, la seconde question, monsieur Jody, je disais, qu'est-ce qu'invité lui, il nous conseille pour arrêter, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter?
Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter avec ce fléau des tricheurs?
Monsieur Jody, pour...
D'accord, merci.
Voilà. Et pour finir, j'attends de l'atterrir, monsieur Jody.
Oui, je sais que vous êtes en train d'atterrir, allez-y.
Oui. En citant, je disais que l'invité conscient est que dans tous les domaines, je ne sais pas s'il serait d'accord avec moi, que dans tous les domaines, on peut pratiquer les tricheries qui sont déjà compétents. Dans les cas sous-examen, dans les cas de tonnerre des mortels, l'étudiant intelligent, c'est lui qui peut accéder à la tricherie. Un étudiant moins intelligent ne peut pas passer. Même si vous laissez les syllabuses, vous laissez tous les documents, tout ce qu'il faut comme note, il serait là toujours, là, mais en train de rien comprendre. Et il confirme, même dans les milieux professionnels, un grand bosseur, qui travaille comme ça, c'est un grand voleur, un grand magouilleur. Est-ce qu'il nous confirme, c'est là? Voilà, on va dire que j'avais comme un petit souci, monsieur Jody.
Voilà.
Et merci quand même de m'avoir associé à ce niveau du débat.
Et Polydor Tanguéry.
Bon, je ne voudrais pas ici que l'émission soit l'opportunité d'étaler les antivaleurs comme valeurs. Hein. Mm. Je sais qu'on nous interdit d'être des moines coupistes. Hein. Il y a le phénomène plagiat qui est interdit dans
le plagiat,
recherche
scientifique. Oui, bien sûr.
Et qu'on ne fasse pas des ceux qui recopient, des imitateurs aveugles, hein, des intelligents. J'ai dit ici qu'il y avait des ceux-là qui avaient la bonne réponse. Mais puisqu'ils n'ont pas confiance en eux, ils ont recopié la mauvaise réponse en croyant que c'était la bonne réponse. Donc, nous voulons que chacun donne le meilleur de lui-même, qu'il étale ses faiblesses et qu'on les comprenne et qu'on l'oriente à bon escient. Certains sont devenus médecins à cause du système éducatif. D'autres sont devenus des juristes aujourd'hui à cause d'un mauvais système éducatif. Voilà ce que je peux dire. Et puis, j'invite aussi l'invité à éviter une généralisation outrée. Hein. En fait, tout le monde ne triche pas. Est-ce que Jody, pour préparer son émission, a triché? Non, moi non plus. Je suis en train de parler ici, ça passe même à la vidéo. Je ne triche pas.
Voilà.
Donc, c'est-à-dire, j'ai préparé ma venue ici et j'ai dit des choses en état aisément, comme Jody le fait professionnellement, aisément aussi. Donc, les choses doivent se préparer. Alors, est-ce que j'ai eu à tricher?
c'est une question provocatrice.
Mais seulement que...
Je ne suis pas obligé de le dire.
Mais seulement que j'ai dit ici que les gens doivent tirer conséquence des effets de la tricherie.
Quels sont ces effets?
Les effets, c'est-à-dire vous vous sentirez miniaturisé devant ceux qui savent que vous avez triché.
Surtout quand on vous attrape
et que vous deveniez,
vous êtes humilié devant tout le monde.
Qui que vous deveniez, quoi que vous fassiez, lorsque vous êtes en face de ceux qui ont su que vous avez gagné par la tricherie, vous avez réussi par la tricherie, entre guillemets aussi par la corruption, vous êtes miniaturisé.
Donc la corruption est une forme de tricherie.
Oui, c'est une forme de tricherie aussi. Donc ça vous rend petit, bien que vous vous sentiez grand. Et moi,
vous devenez sénateur,
qui que vous deveniez, votre enseignant lorsqu'il verra, celui-ci aussi est devenu sénateur, celui-là aussi est devenu médecin. Ça c'est pour tuer les gens. Voilà les conséquences de la tricherie. Et moi ici... Puisqu'il s'agit de témoignages, moi, lorsque j'ai assumé certaines fonctions dans un cabinet, j'ai été avec mon enseignant d'université comme collègue.
Ok, vous êtes
les motifs de fierté, je salue le professeur Lomalise en passant, il témoignait que non, c'est un de mes bons étudiants en premier graduant.
Oui. C'est lui qui témoignait.
Et c'est un motif de fierté.
C'est un motif de fierté. Oui. C'est-à-dire qu'il m'a détecté comme un des bons. Et je suis devenu collaborateur du professeur Jean-Jacques Kapenga à l'UPEN. Mm-hmm. Et qu'est-ce que, pourquoi? Et il était fier de moi. Pourquoi? Puisque en premier graduat de psychologie du travail à l'UNIKIS, Université de Kisangani, il a posé une question élitiste.
Laquelle?
Dans l'auditoire. Bon, c'était de la statistique.
Okay.
Et la réponse était 15. J'étais la seule personne à détecter la réponse 15.
La bonne
15.
Réponse.
Et plusieurs années après, je deviendrai son assistant au cours des statistiques. Et il témoignait, il disait non, les garçons sont à sa place. Voilà ce qu'il faut promouvoir. Donc, puisque l'échec vous rend inutile.
Mais
vous êtes donc, une grandeur sans...
Aujourd'hui, la tricherie est généralisée dans la société. Pourquoi? Ça devient une culture.
Bon, au fait, lorsque on n'a pas pris des mesures au stade foétal de l'échec, si l'enfant commence à tricher aussi, si l'enfant commence la tromperie, on ne lui interdit pas.
C'est fini.
Il ramène ça à l'école. Il trouve aussi que l'école lui offre un passoir. Mm. Et il arrive dans le milieu professionnel, c'est aussi un passoir. Lorsqu'il arrivera dans des milieux moins permissifs, il se sentira à prison. C'est comme ça que lorsque je suis arrivé à Johannesburg pour la première fois, je voyais celui qui me conduisait, qui s'arrêtait partout, même quand il n'y a pas d'autres véhicules.
Qui respecte le feu
qui
de...
Qui respecte, me dit, mais vous êtes en prison ici? Pourquoi? Puisque j'ai évolué dans une culture très permissive, où les interdits ne sont pas respectés.
Oui.
Et là, ça a détruit mon être. Et j'ai trouvé ce qui est bon, mal. Donc, ici, il s'agit d'une... On ne peut pas parler d'une éradication, mais d'une prise de conscience collective. Et là, au plan individuel, au plan institutionnel et au plan global, hein, et ça doit... Il faut une impulsion au plus haut niveau.
Alors, lors des examens, certains ont proposé qu'on coupe la connexion Internet autour des universités. Est-ce que c'est faisable?
Bon, il faut analyser la faisabilité puisque l'antenne d'Internet qui est là ne sert pas seulement à l'université, elle sert peut-être à d'autres. Et puis l'Internet lui-même, on peut télécharger un cours et l'avoir dans son téléphone.
Donc
on peut toujours l'utiliser. C'est une des solutions, mais c'est une solution qui doit être associée à l'ensemble d'éléments d'organisation matérielle de l'évaluation. La distanciation, les documents à utiliser durant le cours, ainsi de suite. Le contrôle, les fouilles. On doit fouiller les gens.
On doit fouiller les sacs.
Il faut qu'on sente que le chargé de discipline qui est à l'entrée là-bas, il fait un check-in impossible. Donc, ou on entre avec son corps.
Mais il y a des étudiants malins qui font des petits bouts de papier qui cachent dans les sous-vêtements et autres pour entrer dans la salle de classe.
Espacez-les. Vous les verrez mal à l'aise.
Ou qui écrivent les réponses sur les cuisses.
Oui, espacez-les, vous les trouverez mal à l'aise. Et j'apprécie les écoles qui donnent l'opportunité que chaque élève ait son banc. Ça permet une visibilité.
Une visibilité, oui.
Lorsqu'on fait le contrôle. Mais lorsqu'ils sont entassés, je l'avais dit déjà.
Oui.
Lorsqu'ils sont entassés, vous leur offrez la facilité de la tricherie. Et l'homme aime la facilité. Et s'il a grandi dans la culture de la facilité, s'il se retrouve dans des conditions psychologiques, des manques de confiance, de peur de l'échec, ainsi de suite, il est exposé à l'échec.
Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces surveillants? Les élèves s'organisent pour cotiser, lui donner de l'argent, et lui, au lieu de surveiller les enfants, il surveille l'inspecteur.
Non, mais leur place est en prison, c'est une infraction. Ce sont des fonctionnaires véreux à éjecter du système. À éjecter du système, puisqu'ils sont en train d'inoculer des pratiques nocives à l'essor de la nation. Tout ce que nous regrettons aujourd'hui a des origines. Des origines, à tout ça.
Polydore Tanguelli.
Un enseignant lui-même vient vendre les réponses de l'examen.
Oh là là, c'est dommage.
Imaginez, donc, c'est des personnes à éradiquer.
Polydore Tanguelli, merci beaucoup.
Merci, Jody.
Je rappelle que vous êtes psychologue. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui et pour parler de la tricherie.
Merci.
Et j'espère que vous allez revenir prochainement.
Il n'y a pas de problème. Nous répondons toujours favorablement aux invitations de la radio Capri. Voilà une dizaine d'années déjà.
Bonne journée, à la prochaine.
Merci.